Maurice Edgar Coindreau, vous avez été, vous êtes le grand introducteur de la littérature américaine contemporaine en France. Jean-Paul Sartre a déclaré dans une interview du Figaro littéraire il y a quelques années que la littérature américaine, c'était la littérature Coindreau. Voulant dire par là, je suppose, que vous nous avez traduit non pas tant les œuvres qui avaient été des triomphes aux USA pendant que vous y étiez, mais bien plutôt celles qui vous paraissaient les plus importantes, et je crois que c'était rarement les mêmes.
C'était en effet presque jamais les mêmes.
Avant de commencer nos entretiens, j'aimerais donner une liste incomplète, bien sûr, de ces écrivains qui nous ont été connus grâce à vous. William Faulkner, John Dos Passos, Erskine Caldwell, Ernest Hemingway, John Steinbeck, William Goyen, Truman Capote, Flannery O'Connor, William Styron, Fred Chappell, et je crois que j'en oublie encore. Et c'est une liste qui parle évidemment d'elle-même, mais nous parlerons de ces écrivains, ou plutôt c'est vous qui en parlerez. Vous avez vécu aux États-Unis pendant de nombreuses années, vous étiez professeur à Princeton.
J'ai dû penser, je pense, 36 ou 37 ans.
Et vous avez connu la plupart de ces auteurs. Et je crois que maintenant, peut-être vous faites une sorte de bilan sur tous ces auteurs que vous avez connus et que vous avez plus ou moins aimés et que vous avez traduits. Vous ne conservez pas sur chacun la même opinion. Et c'est cette opinion et ce témoignage que je vous demanderai au cours de ces entretiens. Pour notre premier entretien, il me semble indispensable qu'il soit dédié à William Faulkner, car c'est le plus universellement et le plus justement admiré des auteurs américains.
Oui, c'est tout à fait mon avis, et je suis particulièrement partisan de commencer par Faulkner, parce que parmi les écrivains que vous avez mentionnés, d'autres en avaient parlé. On n'avait pas beaucoup travaillé sur leurs œuvres. Certains d'entre eux, je ne les ai pas connus. Je n'ai jamais rencontré Hemingway, je n'ai jamais rencontré Steinbeck. Tous les autres, je les ai rencontrés. Je les ai fréquentés, quelquefois même pendant plusieurs années. Certains d'entre eux sont devenus des amis. Mais William Faulkner, c'est vraiment celui dont je peux revendiquer, si vous voulez, la naissance en France, parce que je crois bien qu'avant un article de 1931 que j'ai publié dans la Nouvelle Revue Française, personne n'avait entendu son nom.
Eh bien, Maurice Edgar Coindreau, nous allons écouter un extrait de votre article que va nous lire René Clermont.
On reproche parfois à Faulkner la morbidité où il semble se complaire. Le sexe et la mort, porte d'entrée et porte de sortie du monde, a-t-il écrit dans Mosquitos. Ces deux thèmes servent de toile de fond à tous ses romans. Il emploie pour sa peinture des couleurs fort crues. Mais c'est beaucoup moins par perversité que par puritanisme. Mort est pour lui synonyme de putréfaction, comme pour un moine du Moyen-Âge. Il ne cherche point à cacher le sort qui attend notre carcasse humaine. Quant à l'amour, c'est aussi en moraliste, j'ajouterai en moraliste sévère, qu'il l'envisage. L'acte sexuel dans l'œuvre de William Faulkner est toujours décrit comme une opération bestiale, répugnante ou perverse. L'origine de cette attitude se trouve dans un vieux fond d'idéalisme impérissable.
Et je crois que William Faulkner a été beaucoup plus apprécié par vos traductions françaises que dans son propre pays au moment où il écrivait ses premiers livres.
Oui, je pourrais dire sans exagération qu'il faudra attendre le prix Nobel pour que dans son pays on veuille parler de lui d'une façon qui ne serait pas, je pourrais presque dire, insultante.
Comment avez-vous fait la connaissance de l'œuvre de Faulkner?
Je l'ai fait par pur hasard, grâce à un de mes étudiants, qui lisait beaucoup. Il était extrêmement cultivé, et comme il savait que je m'intéressais à la littérature et que j'étais curieux de savoir ce qui se passait dans l'Amérique, nous parlions souvent des publications. On lui reprochait à Princeton d'être un peu snob, et de chercher toujours des écrivains rares qu'on ne lisait pas. Et lorsque parut Sanctuaire, c'est-à-dire vers 1931, je lus Sanctuaire, qui m'a mis dans un état d'admiration considérable, et je parlais à ce jeune homme de Sanctuaire et de William Faulkner.
Et vous avez eu la sensation, dès cette première lecture, que vous vous trouviez en présence de celui qui allait devenir effectivement le plus grand écrivain américain.
Savais pas s'il le deviendrait, mais en ce qui me concernait, je le considérais déjà comme l'écrivain américain qui avait écrit la chose la plus sensationnelle et la plus extraordinaire. Et
vous avez eu le désir de le connaître tout de suite et de le traduire?
Non, j'ai eu le désir de savoir s'il avait écrit autre chose. Et alors ce jeune homme m'a dit, mais oui, il a écrit Sartorius, il a écrit Le bruit et la fureur, il a écrit Tandis que j'agonise. Et il m'a prêté ses livres. Je les ai lus, naturellement, j'ai été encore plus enthousiaste. Ils étaient complètement inconnus. Il y avait peut-être un ou deux articles sur Le Bruit et la Fureur qu'on avait considéré comme l'œuvre d'un fou et auquel on ne s'était pas arrêté. Et c'est alors qu'en 1931, comme j'étais en très bons termes avec Jean-Paul Lang et avec la NRF, j'ai écrit ce petit article qui est apparu dans le numéro du 1er juin pour parler de Faulkner, de cet homme extraordinaire. Il s'est trouvé que Valérie Larbeau avait eu connaissance aussi de quelqu'une de ses œuvres, je ne sais pas exactement laquelle, mais enfin le nom de Faulkner ne lui était pas inconnu. Et en 1932, j'ai publié dans la NRF un conte de Faulkner, Septembre ardent. Et après, dans Commerce, que dirigeait Valérie Larbeau, j'ai publié Une rose pour Émilie. Puis l'année suivante, j'ai publié Il était une reine. Enfin, je ne m'étais pas encore lancé dans ses romans. Naturellement, il commençait à être connu en France. André Marlowe le connaissait. En fait, les intellectuels jeunes, pour qui la littérature est quelque chose qui évolue et qui nécessite une attention constante si l'on veut se tenir au courant, considérant que Faulkner était l'homme qu'il fallait surveiller de très près. À ce moment-là, j'ai fait la connaissance de Faulkner. D'abord, pour publier ses contes, il a fallu que je demande l'autorisation. Et son éditeur, à New York, un jour où il était de passage dans cette ville, m'a demandé de venir déjeuner avec lui. Et alors, j'ai donc rencontré Faulkner à ce moment-là, où je m'apprêtais à traduire tandis que j'agonise. Il a été très aimable, il m'a dit « si vous avez besoin de renseignements, écrivez-moi, mettez votre nom sur l'enveloppe afin que je vous réponde, parce que, en général, je ne réponds jamais aux lettres, et je ne voudrais pas être discourtois et ne pas vous répondre. »
Et vous pouvez nous donner une sorte de petit portrait impressionniste de Faulkner à cette époque?
Oui, c'est un peu le portrait que l'on a donné souvent, aussi bien dans la presse qu'en conversation. C'était un homme assez mystérieux, qui parlait peu, sauf quand il était tout à fait en confiance avec les gens. Il était susceptible, même dans une réunion où il y avait plusieurs personnes, de se taire et de se laisser absorber comme s'il se perdait dans une sorte de rêve. Peut-être était-ce parce que la conversation ne l'intéressait pas ou parce que quelques-uns de ses personnages venaient l'obséder, je n'en sais rien. Mais moi, je l'ai toujours trouvé d'une extrême courtoisie. Et les lettres que j'ai reçues de lui étaient toujours très laconiques, très simples. Il n'y avait pas de fioritures, mais elles étaient également des lettres d'un homme qui, je crois, a été content de voir que je commençais à éveiller l'intérêt de la France sur son œuvre, étant donné qu'aux États-Unis, il était vilipendé. Et chaque fois qu'on parlait de lui, c'était pour dire des choses désobligeantes.
À cause d'un caractère qu'on considérait comme scabreux.
Oui, et puis surtout, déjà à ce moment-là, il était hostile à la presse, il était hostile à la publicité, il était hostile à toutes les choses qui...
Je crois que ça ne l'intéressait pas du tout, surtout.
Ah, pas le moins du monde.
Il ne lisait pas d'articles sur lui.
Non, s'il en lisait, il en a lu bien peu. Peut-être avait-il connaissance de certaines choses qu'on écrivait sur lui, par oui dire. Mais ce n'était certainement pas l'homme qui se précipitait sur le journal pour voir ce que l'on disait de la chose qu'il venait de publier le plus récemment.
Une fois que son livre était écrit, je crois qu'il l'abandonnait, en quelque sorte, au public sans trop s'en soucier.
Oui, ça, je pourrais vous le dire tout de même plus tard, lorsque, l'ayant mieux connu, parce qu'en réalité, je l'ai connu jusqu'à l'année avant sa mort, mais avec des intervalles de plusieurs années, quelquefois, où je ne savais même pas s'il était au courant de ce que je faisais en France, en sa faveur, et je ne m'en formalisais pas le moins du monde. Je trouvais que c'était extrêmement naturel.
Mais au fond, à l'issue de toutes vos rencontres avec William Faulkner, vous avez eu la sensation qu'il restait toujours aussi mystérieux, ou vous avez eu, au contraire, un peu l'impression que vous l'approchiez un peu mieux?
Non, j'ai eu de plus en plus l'impression, à mesure que je le connaissais mieux, que c'était un homme qui ne vivait pas dans notre monde, qui avait créé son monde à soi, qui vivait dans ce monde-là, et je crois que plus il a vécu, plus le monde réel pour lui était cette vie de Jefferson et son comté de Yopnapatoff auquel il avait donné naissance, beaucoup plus que le monde réel dans lequel il s'agitait, où il y avait des gens qui l'importunaient. Évidemment, c'est une opinion un petit peu simpliste, parce qu'il avait une famille à laquelle il était très attaché, il avait une fille qu'il aimait beaucoup, de sorte qu'il avait tout de même sa vie personnelle. Mais il donnait l'impression d'un homme qui habitait dans un autre monde, et surtout pour lequel le grand public ou les gens qu'il pouvait rencontrer à un dîner ou dans une réunion n'avaient aucune espèce d'importance.
C'est tout le solitaire type, alors, le créateur,
oui,
enfermé dans son...
Et c'était surtout le solitaire qui tenait à rester solitaire.
qui ne supportait pas qu'on essaie de franchir justement ce mur de la vie privée.
Non, ça c'était absolument fatal. Les journalistes qui ont essayé de franchir les murs de sa vie privée, je ne sais pas s'ils lâchaient ses chiens pour les faire partir, mais enfin, la façon dont ils étaient expédiés, vous savez que dans ses dispositions dernières, il avait interdit qu'il y eut le moindre journaliste et d'autres personnes autres que sa famille et ses amis très intimes. Le seul auteur qui eut l'autorisation qui lui fut donnée par Madame Faulkner elle-même, parce qu'il est arrivé quelques minutes avant les funérailles, et William Styron.
William Faulkner était très peu lié finalement avec les écrivains de sa génération.
Oui, je ne vois pas du tout avec qui il aurait pu être lié. Il les connaissait bien sûr, et puis par l'intermédiaire de son éditeur, il devait être en contact avec quelques-uns, mais je suis certain que ça ne comptait pas. Il les lisait, ou il en lisait certains. Parce que, par exemple, je lui ai entendu dire des choses très flatteuses sur Flannery O'Connor.
Donc, de ses cadets, de ses cadettes.
Ah oui. Mais où je l'ai le mieux connu, c'est lorsque je suis allé en 1937 à Hollywood. Non pas pour y travailler, mais parce que j'allais enseigner à Mills College, qui était sur la baie de San Francisco.
Mais Faulkner, lui, il travaillait à Hollywood.
Faulkner, il travaillait. Lui. Ça ne l'amusait pas. Mais il y travaillait parce qu'il avait besoin d'argent.
Il faisait des bouts de dialogue de films.
Il faisait des bouts de dialogue.
Il n'y attachait aucune importance.
Mais c'est lui-même qui m'avait conseillé d'aller le voir parce qu'à un dîner à New York où je lui avais parlé de ma grande ambition qui était de traduire Le bruit et la fureur, je lui ai dit malheureusement je me heurte à des difficultés très grandes et il m'avait dit bien faites une liste et envoyez-la moi, je vous répondrai par écrit. Et il m'avait dit mais ce qui serait encore mieux c'est si vous aviez l'occasion de venir dans l'Ouest, que vous vous arrêtiez chez moi, nous pourrions voir le texte ensemble. Or, comme j'allais cet été-là faire des cours d'été à Mills College, je lui ai dit que je pourrais très bien faire un détour. Et alors, j'ai passé 8 jours chez lui. Il partait le matin, il allait faire son travail dans le studio. Il revenait le soir, nous allions dîner en ville, nous sortions. Puis alors, on s'installait à sa table et je lui confiais toutes mes incertitudes. Il me donnait toutes les explications dont j'avais besoin. Mais à ce moment-là, il n'était pas farouchement le gardien de sa solitude, comme il est devenu plus tard. Après cela, nous avons échangé 2 ou 3 lettres, je ne me rappelle plus exactement à quel propos. Il m'a écrit 2 ou 3 fois des courtes notes lorsque on lui avait envoyé soit un livre que j'avais publié ou des contes. Notamment, j'ai une lettre où il me parle d'une rose pour Émilie. Et puis le temps a passé, sans que je cesse de le traduire. Il savait évidemment que je continuais à le faire. Je ne lui écrivais pas parce que je savais bien que ce n'était pas l'homme à qui on peut écrire pour lui demander comment il allait, quels étaient ses plans et tout ça, parce que là il n'aurait pas répondu à la lettre. Puis, il a eu le prix Nobel. Et après le prix Nobel, il est devenu moins farouchement isolé. Et je crois savoir pourquoi. C'était un homme qui avait un sentiment du devoir, et même, je pourrais dire, un sentiment de l'honneur, poussé à un très grand degré. Vous savez, dans ses romans, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a quelquefois 2 mots français que quelques personnages qui appartiennent à la grande famille des Sartoris, autrement dit des gens qui ont des principes et qui savent ce qu'est l'honneur d'un gentleman, il y a cette mention « noblesse oblige ». Eh bien, je suis persuadé qu'après l'obtention du prix Nobel, il a considéré que maintenant qu'on lui avait fait cet honneur, il se devait de sortir un peu de cet isolement. C'est pourquoi il a accepté d'aller à l'Université de Virginie, notamment, pour être à la disposition des étudiants qui voudraient lui demander des renseignements, lui parler de son œuvre, lui poser des questions. Ces questions et ses réponses ont été publiées dans un volume qui est extrêmement intéressant parce qu'il répond des choses extrêmement utiles pour les critiques. Il a été envoyé par la Maison-Blanche au Japon pour y faire la même chose.
Il aimait beaucoup parler de son œuvre.
Non.
Et par exemple, dans les rapports que vous avez eus avec lui, l'essentiel de vos conversations, c'était sur son œuvre.
Oui, mais c'était des points de difficulté, de grammaire, comme ça.
Mais pas forcément vers les profondeurs de son œuvre.
Non, ça, il ne m'a jamais dit, par exemple, si tel personnage était une de ses grand-mères, ou si telle histoire était réelle, ou s'il l'avait pris. C'était des explications de texte, si vous voulez.